Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les grands titres de ce mardi 15 février, la grève des infirmières ce mardi en Nouvelle-Galles du Sud pour protester contre le manque de personnel dans les hôpitaux publics. Le secrétaire général des Nations Unies s'est entretenu avec les ministres russes et ukrainiens des Affaires étrangères. Après le cyclone Batsirai, c'est une tempête tropicale modérée du Mako qui se dirige vers Madagascar et qui devrait toucher la côte nord-est de la Grande Île ce mardi soir. Les infirmières et les midwives de toute la Nouvelle-Galles du Sud quittent leur travail et se rassemblent devant le Parlement ce mardi 15 février, exigeant que le chef de Nouvelle-Galles du Sud résolve la crise de personnel dans les hôpitaux publics. Pendant les grèves, les services vitaux seront maintenus dans tous les hôpitaux et services de santé publique. Des milliers de membres de l'Association des infirmières de la Nouvelle-Galles du Sud participent à plus de 20 rassemblements échelonnés tout au long de la journée. Certaines infirmières ont quitté le travail depuis 7 heures ce matin pour au moins 24 heures. Écoutez la réaction de cette infirmière.
We find that discriminatory. We don't want to have a disparity in the nursing skills. They're all the same patient. They deserve the best quality of care. And we are advocating that the government should do the right thing by giving us the mandate of 1-4. All the states, regardless of wherever you work, we want 1-4 as the parity in all the nursing ratios. And that's what we're asking for.
Le Premier ministre australien Scott Morrison a dénoncé l'agression russe à la frontière ukrainienne alors que le personnel diplomatique australien est en train de quitter l'ambassade à Kiev. On estime que 198 Australiens en Ukraine ont demandé une assistance consulaire alors que les États-Unis avertissent qu'une invasion russe de l'ancien pays soviétique est imminente. Alors que les tensions dans la région s'intensifient, Scott Morrison a déclaré qu'il était temps pour l'Australie de tenir tête au pays qui intimide l'Ukraine.
We denounce Russia's bullying, their coercion, their intimidation and their threats of violence against Ukraine, Mr. Speaker. And we will always take steps to do that. And Mr. Speaker, we have taken those steps with our like-minded partners. But I know, Mr. Speaker, that the Chinese government has not stood with the rest of the world in denouncing the actions of Russia, Mr. Speaker, and they should do so.
Le gouvernement russe continue de nier toute intention d'envahir l'Ukraine, mais craint que les liens de l'Ukraine avec l'alliance de l'OTAN n'en fassent une rampe de lancement pour les missiles de l'OTAN visant la Russie. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré qu'il n'y avait pas d'alternative à la diplomatie.
I think what the Secretary General expressed to both foreign ministers was his serious concern over the heightened tensions around Ukraine. He welcomed the ongoing diplomatic discussions to diffuse those tensions and underlined yet again the fact that there is no alternative to diplomacy.
La Russie a signalé qu'elle était prête à continuer à discuter avec l'Occident des problèmes de sécurité qui, selon elle, ont conduit à la crise actuelle en Ukraine. Malgré les avertissements de la communauté internationale, selon lesquels les troupes russes pourraient se déplacer en Ukraine à tout moment, le président russe Vladimir Poutine et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ont suggéré le contraire. Depuis Moscou, le reportage de Anissa El-Jabri pour RFI.
C'est un échange soigneusement mis en scène, un dialogue rendu public entre Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a émis cette analyse signant une ouverture diplomatique.
Nous avons déjà dit plus d'une fois, vous l'avez dit, d'autres représentants de la Fédération de Russie l'ont dit, que nous mettons en garde contre des discussions sans fin sur des questions qui doivent être résolues aujourd'hui. Mais je dois dire qu'il y a toujours une chance, qu'il me semble que nos possibilités sont loin d'être épuisées. Je suggère donc de continuer à développer le dialogue.
Autre signal dans la foulée, l'annonce du ministre de la Défense de la fin de certains exercices militaires. Reste que Vladimir Poutine l'a souvent montré, tout particulièrement dans cette crise. Il aime souffler le chaud et le froid et par-dessus tout, entretenir le flou sur ses intentions.
En Australie, une commission des estimations du Sénat a appris qu'aucune enquête n'avait pas été menée sur la manière dont les messages SMS privé de Scott Morrison avec le président français Emmanuel Macron avait été divulgué à un journal. Interrogé par la sénatrice travailliste Katie Gallagher, le ministre des Finances Simon Birmingham et le personnel du département du Premier ministre ont confirmé que ni la police fédérale australienne ni aucun département gouvernemental n'avait enquêter sur les fuites. La sénatrice Gallagher suggère que le Premier ministre les a peut-être divulguées lui-même.
If it wasn't the Prime Minister, there would be a police investigation. The security agencies would all be all over it. PM&C would be up in arms and working out, you know, reviews and how to manage this breach of the Prime Minister's privacy and maintaining international relationships, but nobody seems to be the slightest bit bothered. What is the other explanation other than the Prime Minister leaked it because he was angry and he felt hurt by what President Macron had said?
La sénatrice travailliste Kimberley Kitching se sert du privilège parlementaire pour alléguer qu'un riche homme d'affaires sino-australien et donateur politique est à l'origine d'une tentative de soutenir des candidats politiques lors des prochaines élections. Les affirmations sont intervenues lors d'une audience sur les estimations du Sénat, au cours de laquelle Mme Kitching a posé la question au patron de l'ASIO, Mike Burgess, l'ASIO, le service de renseignement australien. Mike Burgess a déclaré au comité qu'il ne discuterait pas de la question publiquement.
Senator, as I said before, I will not comment on speculation of who is and who isn't targets in general or in specifically as you're asking me there. I think it's unfair that you ask me that question in public.
Le gouvernement fédéral prend des mesures pour expulser rapidement les criminels nés à l'étranger reconnus coupables d'infractions sexuelles violentes ou graves. La coalition prévoit de présenter une législation au Parlement pour combler une lacune dans les lois sur les tests de personnalité en matière de migration. L'amendement proposé permettra au gouvernement de refuser ou d'annuler les visas des non-ressortissants qui ont été reconnus coupables et condamnés à au moins 2 ans de prison pour des infractions graves, qui ont purgé moins de 12 mois en prison et qui sont considérés comme un risque pour la communauté. Le ministre fédéral de l'immigration, Alex Hawke, a déclaré au Seven Network que le gouvernement avait besoin de plus de pouvoir pour expulser plus de personnes.
We're the first government that's deported 10,000 serious criminals. We've cancelled their visas. We've got them offshore, overseas, never to come back. And we need more power to do more of it because there are several laws that are inadequate to capture serious sexual and violent offending.
La première conférence nationale australienne sur la maltraitance des personnes âgées. Cette conférence vient après la publication d'une recherche par The Australian Institute of Family Studies montrant que 15%, soit près d'un Australien âgé sur 6, subissent une forme de maltraitance des personnes âgées. Le commissaire au vieillissement et au handicap en Nouvelle-Galles du Sud, Robert Fitzgerald, est l'un des participants de cette conférence nationale. Il a déclaré sur SBS News que la maltraitance des personnes âgées est le plus souvent perpétrée par des membres de leur famille.
This is all about family relationships that have gone wrong. And of course it manifests itself in psychological abuse, financial abuse, sometimes physical abuse as well. And that's a really big learning because it's quite different from the abuse in say aged care facilities or in residential services that we hear about over and over again.
Et si vous avez besoin d'aide, contactez le service Elder Abuse au 1300 651 192, 1300 651 192. Les convois de la liberté sont présents à Bruxelles maintenant, malgré l'interdiction de manifester dans la capitale belge où se trouvent les institutions européennes. Beaucoup de gens sont venus à pied Reportage sur place de Muriel Paradon pour RFI.
Un hélicoptère survole le cortège sous une pluie battante. Sur la route, quelques centaines de manifestants repoussés par des policiers qui les empêchent d'approcher des bâtiments de la Commission européenne. Dans le défilé, une majorité de Français, comme Lilian, un peu excédés par ce dispositif musclé.
Eux, ils nous font même pas peur. Je veux dire, nous, on n'est pas là, on n'est pas agressifs. Je veux dire, on n'est pas des punks, hein. On n'est pas là pour casser ni pour faire les black blocs. Donc nous, on est là parce qu'on revendique aussi le droit d'être libre. Et ça fait partie quand même de la démocratie, d'être libre, je crois. Et de manifester en même temps, évidemment.
Ils manifestent contre les règles sanitaires qu'on leur impose, mais refusent la vaccination. Certains frôlent avec des thèses complotistes et se disent rejetés. Adam est heureux de trouver dans ce convoi européen des personnes qui partagent les mêmes idées que lui.
Moi, ça fait 2 ans que je ne peux pas parler avec personne d'aucun sujet. Et là, en 2 minutes, tous les gens que j'ai rencontrés depuis 4 jours, on peut discuter de tous les sujets sans tabou, sans avoir peur de est-ce que je vais être jugé, pas jugé. Les gens, j'ai retrouvé une humanité, mais on a l'impression que c'est la famille, quoi. Et là, on est tous repartis pour des années de résistance, parce que c'est ça, en fait.
Le mouvement, assez hétéroclite et imprévisible, pourrait se poursuivre dans les prochaines semaines.
Le gouvernement britannique a annoncé hier la création de 2 ports francs en Écosse et il devrait ouvrir en 2023. Précision de Emeline Vin pour RFI.
Le gouvernement britannique promet plus de 60 millions d'euros pour la création de 2 ports francs en Écosse. Les ports francs, ce sont ces zones situées à proximité d'un aéroport, d'un hub routier ou d'un port naval qui bénéficient d'une fiscalité avantageuse et d'incitation à l'investissement. Leur création a été rendue possible par la sortie britannique de l'Union européenne. 8 sont déjà prévus en Angleterre. Le gouvernement écossais s'opposait jusqu'ici à la création de ces 2 ports francs considérés comme des outils d'évasion fiscale et de moins-disance sociale. Après plusieurs mois de lutte, Holyrood a obtenu des garanties. Il s'agira de zones à basse émission avec un objectif de net zéro en 2045, des bénéfices tangibles pour les communautés locales et des protections du droit du travail. Les Verts, pourtant partenaires de la coalition, ont dénoncé un éco-blanchiment ou greenwashing. Les zones entrent dans la stratégie gouvernementale de nivellement par le haut pour revitaliser certaines zones excentrées. Les appels d'offres seront lancés le mois prochain et les 2 ports francs écossais devraient ouvrir en 2023.
À Madagascar, après les dévastations du cyclone Batsirai, il y a une dizaine de jours, c'est l'arrivée maintenant ce mardi d'une tempête tropicale modérée, Dumako, qui touchera la côte nord-est de la Grande Île ce soir. À Manzana, on continue à se relever. 90% des constructions sont dévastées. Reportage sur place de Sarah Teto pour RFI.
Le toit de sa maison s'est envolé. L'ensemble de ses biens a été trempé par les trompes d'eau du cyclone. Pourtant, Dr Rina ne se plaint pas. En face de sa maison, l'hôpital public qu'il dirige a été dévasté. C'est ça qui l'affecte le plus.
Tous les tôles sont partis. L'hôpital est ravagé à 90%. Le quartier du bloc opératoire à 100%. Le service maternité à 100%.
20 patients étaient hospitalisés à l'hôpital B durant la nuit du cyclone. Ils ont depuis été transférés à la clinique Sainte-Anne, un établissement catholique privé flambant neuf en bordure de la ville et qui était jusqu'à présent en attente d'une autorisation pour ouvrir. L'entente entre Dr Rina Rakutumamouns et Père Jean-Yves, le fondateur de la clinique, est excellente. Toutefois, tous deux appellent de leur vœu la reconstruction de l'hôpital public.
Nous souhaitons qu'on réhabilite rapidement l'hôpital pour le bien des malades qui viennent se soigner ici. Même pour les déplacements des personnels, ici c'est plus accessible, plus central qu'à l'hôpital Sainte-Anne. Si on répare 3 ou 4 chambres et on redémarre l'électricité, vaut mieux on travaille ici.
10 jours après le passage dévastateur de Batsirai, les couloirs sont encore inondés. Les poutres du plafond jonchent le sol. Plusieurs organisations ont fait part de leur intention d'aider à la réhabilitation de l'hôpital, mais aucun travaux n'ont encore commencé.
Et tout à l'heure dans l'émission, nous parlerons à la directrice adjointe de CARE Madagascar sur les dévastations après le passage du cyclone Batsirai. On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 38 degrés, Adélaïde 30, Melbourne 24, Hobart 22, Canberra 31, Sydney 28, Brisbane 27, Cairns 30, Darwin 35 et à Alice Springs, maximal de 36 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 15 février, la grève des infirmières ce mardi en Nouvelle-Galles du Sud pour protester contre le manque de personnel dans les hôpitaux publics. Le secrétaire général des Nations Unies s'est entretenu avec les ministres russes et ukrainiens des Affaires étrangères. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.